Orange Monnaie, transfert d'argent et paiement de factures, simple, rapide, économique, vous propose Appel sur l'actualité.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Merci d'être avec nous. Bienvenue si vous nous rejoignez. L'antenne vous appartient comme tous les jours. RFI vous donne la parole. Vous pourrez dans 30 minutes commenter l'actualité de votre choix. Vous connaissez le principe du vendredi, c'est la libre antenne. Vous revenez sur tous les sujets qui vous ont marqué ces derniers jours dans l'actualité française, internationale, africaine. Tous les sujets nous intéressent. Donc où que vous soyez à travers le monde, parlez-nous de l'actualité dans votre pays. Appelez-nous, nous sommes à Paris, 33 9 693 693 70 et vous lancerez le débat en direct sur l'antenne de RFI. C'est l'occasion, vous le savez, la libre antenne, de nous interpeller sur des sujets qui ne font pas forcément la une de la presse internationale. Vous pouvez nous sensibiliser sur des sujets dont on ne parle pas suffisamment selon vous, notamment dans cette émission. Vous êtes les bienvenus, 33 9 693 693 70. Et le débat se déroule également en ce moment même sur la page Facebook de l'émission, la page officielle RFI Appel sur l'actualité. Mais d'abord, comme tous les jours, ce sont vos questions à la rédaction, vos questions pour mieux comprendre l'actualité, mieux décrypter les sujets que nous venons, par exemple, d'aborder, de traiter à l'instant dans le journal de Gilles Moreau. Toutes vos questions également nous intéressent et nous allons commencer avec Karim qui nous appelle du Bénin. Il est à Cotonou exactement. Bonjour Karim.
Bonjour Juan.
Bienvenue sur l'antenne des RFI. Vous avez des questions concernant le meurtre de trois adolescents israéliens.
Oui, trois adolescents israéliens effectivement ont été tués. Et l'État hébreu accuse des deux jeunes palestiniens. Je voudrais savoir sur quelle preuve se base-t-il pour accuser ces jeunes.
C'est vrai que pour les autorités israéliennes, il n'y a pas de doute. Hein. Le Hamas est responsable de l'enlèvement de ces trois adolescents et de leur mort. Bonjour Muriel Paradon.
Bonjour.
Vous êtes notre correspondante à Jérusalem. Les corps de ces trois adolescents ont été retrouvés lundi par l'armée israélienne près d'Hébron en Cisjordanie. Quelles sont les preuves dont disposent actuellement les autorités palestiniennes pour affirmer israéliennes pour affirmer effectivement un d'abord que le Hamas est derrière cet acte odieux et de deux que deux Palestiniens sont clairement visés responsables. D'ailleurs leur nom et leur photo circulent en ce moment en Israël.
Oui, en tout cas, s'il y a des preuves concrètes, elles n'ont pas été communiquées. C'est vrai que les autorités israéliennes ont accusé dès le départ le Hamas d'être derrière l'enlèvement, même si le mouvement islamiste a démenti. Et les deux suspects, Marwan Kawasmé et Amer Abou Eché, seraient liés au Hamas. Par ailleurs, selon les Israéliens, les corps des trois adolescents ont été retrouvés dans un terrain appartenant à la famille d'un des deux suspects. Enfin, les deux suspects ont disparu en même temps que les jeunes Israéliens. Mais voilà, ce sont les seuls éléments donnés par les autorités. Pas de preuves concrètes, donc, en tout cas, diffusées aux médias. Du côté des familles des suspects que j'ai rencontrés, on réfute tout en bloc. Tous deux affirment que Marwan comme Amer ne peuvent pas avoir commis l'enlèvement et le meurtre des trois Israéliens. Ils n'ont pas le profil. L'un coiffeur, l'autre forgeron et légèrement handicapé mental sont père de famille ou père en devenir. Quant au lien avec le Hamas, il resterait à démontrer, selon les familles. Bon, ces familles, tout de même, il faut le dire, ont des liens plus ou moins directs avec le mouvement islamiste. Par exemple, dans la famille Kawasmé, Abdullah était un chef de la branche armée du Hamas à Hébron. Il a d'ailleurs été éliminé en 2003 par les Israéliens. Et chez les Abou Eché, le père Omar affirme que sa famille n'est pas liée directement au Hamas, mais à la destruction de sa maison par les Israéliens lorsqu'on a redécouvert les corps des adolescents israéliens. Vous savez, c'est une méthode des Israéliens. On fait sauter les maisons des familles des terroristes présumés. Eh bien, il y avait un drapeau du Hamas qui avait été planté sur les décombres. Voilà donc, on n'a pas beaucoup d'éléments concrets pour l'instant et on ignore surtout où se trouvent les deux suspects.
Ouais, en tout cas, plusieurs experts interrogés par la presse, évidemment, pensent que l'enlèvement et le meurtre de ces trois adolescents seraient davantage une opération isolée. C'est une piste qui circule également, peut-être en Israël ou pas ?
Écoutez, beaucoup de pistes ont été données. Le fait qu'effectivement les dirigeants du Hamas nient être derrière l'enlèvement, ils ont quand même salué cet enlèvement. On ne sait pas. Vous savez, dans le Hamas, il y a différents courants. C'est très possible qu'il y ait des cellules isolées ou ça peut être aussi d'autres mouvements radicaux qui sont à l'origine de l'enlèvement.
Karim, vous aviez une autre question.
Ah oui, j'ai une autre question. Suite à ce meurtre, il y a un jeune palestinien qui a été enlevé et tué à Jérusalem-Est. Je voudrais savoir qui pourrait être l'auteur et est-ce une vengeance?
Ah, est-ce une vengeance? L'hypothèse d'un acte de représailles de la part d'extrémistes juifs est privilégiée, Muriel Paradon.
Oui, tout à fait. En tout cas, par la famille de ce jeune homme, Mohamed Aboukader, et par les habitants de Chouafat, le quartier où il habitait, ils sont tous persuadés qu'il s'agit d'un acte de vengeance perpétré par des extrémistes juifs, des colons qui habitent tout près de ce quartier d'ailleurs. Un membre de la famille que j'ai rencontré dit avoir vu Mohamed se faire enlever par trois hommes, habillés comme des colons. Il était vers 3-4 heures du matin, il sortait pour aller prier, c'est Ramadan. Et puis, il y a des vidéos issues de caméras de surveillance qui ont également été diffusées par la famille. Alors, je les ai vues, on ne voit pas grand-chose à vrai dire, mais ces vidéos sont en possession de la police. Enfin, plusieurs personnes du quartier affirment que des tentatives d'enlèvement avaient eu lieu dans les jours précédents et que la même voiture et les mêmes hommes ont été aperçus. Donc ça, c'est la thèse de la famille des habitants de Chouafat. C'est une thèse aussi retenue avec beaucoup d'attention par la police, qui reste très prudente pour l'instant. Elle étudie cette piste d'un crime nationaliste en vengeance commis par des extrémistes après le meurtre des jeunes Israéliens. Vous savez que ce triple meurtre a suscité une énorme émotion en Israël et aussi beaucoup de haine envers les Palestiniens qui ont été désignés comme coupables par les autorités. On a vu notamment sur les réseaux sociaux des appels à tuer les Arabes dans un contexte tel. Vous imaginez bien que effectivement ça peut être un acte de vengeance. Mais la police étudie quand même d'autres pistes. Un crime commis par d'autres Palestiniens n'est pas à exclure. C'est ce que disent les médias israéliens. En tout cas, c'est une affaire très délicate car s'il s'avère qu'il s'agit bien d'un crime à caractère nationaliste, cela pourrait embraser un peu plus la région et les tensions sont déjà très fortes actuellement ici.
Ouais, Benjamin Netanyahou qui lui a dénoncé cet assassinat, le premier ministre israélien a qualifié la mort du jeune palestinien de crime abominable et il a d'ailleurs demandé une enquête pour identifier les agresseurs. Merci beaucoup Muriel Paradon, correspondante des RFI à Jérusalem. Karim, bonne journée à Cotonou, au Bénin, 33 9 693 693 70. On a reçu beaucoup de questions sur le démantèlement d'un trafic présumé de bébés au Niger. 17 personnes dont 12 femmes ont été écrouées. Cette affaire a pris, on va en parler dans un instant, un tournant politique. Bonjour Christine Muratet.
Bonjour Juan.
Merci d'être avec nous, Christine Muratet du service Afrique des RFI. La première question, nous accueillons Ousseini. Bonjour.
Bonjour Juan.
Nous vous écoutons.
Voilà, comme vous venez de dire, RSO a été démantelé du trafic de bébés au Niger il y a de cela quelques jours. Donc ma question est de savoir qu'est-ce qu'on exactement sur l'organisation du trafic de bébés au Niger et comment fonctionne ce système.
Alors, Christine Muratet. Alors qu'il est, que sait-on exactement?
Alors, je crois qu'à ce stade, il faut quand même rester prudent sur les termes de trafic d'enfants. L'enquête ouverte par le parquet de Niamey et qui est aujourd'hui entre les mains d'un juge d'instruction n'apporte pas de preuves probantes de trafic, mais des faisceaux d'indices qui laissent penser que l'on a affaire à un trafic. Donc on reste encore, il faut rester prudent.
De quoi s'agit-il?
Eh bien, en fait, on soupçonne des femmes, des épouses de familles fortunées de Niamey particulièrement, de chercher à s'attribuer la maternité d'un enfant dont elles n'ont pas accouché. C'est ce qu'on appelle en droit la supposition d'enfant ou encore la simulation d'enfant. Et puis dans le cas à présent, 17 personnes ont été écrouées au Niger, dont 12 mères et leurs 5 époux. Ces personnes seraient allées au Nigeria acheter leur nouveau-né, généralement des jumeaux, un garçon et une fille. Et il y a un scénario qui semble à chaque fois le même. Dans le sud du Nigeria, une salle d'accouchement où seule la matrone nigériane et une jeune assistante restent aux côtés de la femme en mal d'enfant. On simule l'accouchement, mais le ou les nouveau-nés sont amenés discrètement. La mère est une jeune femme pauvre qui vient d'enfanter anonymement. Alors, l'enfant est placé sur le ventre de la fausse mère. On procède alors au premier bain du bébé. On enterre le placenta devant les proches. Donc, il y a vraiment tout un décorum autour de ce vrai-faux accouchement. Deuxième étape, elle se passe à quelques dizaines de kilomètres de là, au Bénin, à Cotonou précisément, dans une clinique privée où sont réalisés les premiers examens postnataux et qui fournit en fait aussi un carnet de naissance de l'enfant. Troisième étape, la mère nigérienne revient par la route avec l'enfant, par le nord du Bénin, pour éviter, nous dit-on, du côté de la justice nigérienne, d'avoir à fournir les papiers du nouveau-né qui ne sont pas conformes. Ou bien, autre solution, la mère rentre par l'avion seul, et l'enfant, lui, arrive avec la nounou par la route, toujours pour les mêmes raisons. Et dernière étape, c'est à Niamey que les parents déclarent la naissance de cet enfant.
Voilà, donc il s'agirait d'un trafic triangulaire entre le Nigeria, le Bénin et le Niger. On dit qu'une trentaine de bébés seraient concernés par cette affaire. La justice nigérienne, pour l'instant, elle n'a pas véritablement fourni de preuves.
C'est tout le problème, je l'ai dit au début. Cette justice nigérienne parle de faisceaux d'indices, de charges suffisantes, mais il n'y a pas de preuves probantes pour l'instant. Les indices sont cependant nombreux. Alors, je vous en donne quelques-uns qui ont été fournis par justement les magistrats nigériens. C'est l'âge de certaines épouses trop âgées pour enfanter. C'est des examens gynécologiques de ces femmes qui démontrent qu'il n'y a pas eu enfantement. Un homme, par exemple, qui n'a jamais eu d'enfant au Niger, qui est connu dans tout Niamey, avec ses trois, et donc il n'a pas eu d'enfant avec ses trois épouses, et qui soudainement se retrouve en quelques mois le père de 6 enfants, 2 jumeaux par épouse, une situation donc qui n'est pas passée inaperçue à Niamey. Les enquêteurs nigériens ont interpellé également un intermédiaire nigérien qui a fourni de nombreux éléments et notamment des carnets de naissance illégaux délivrés par la clinique béninoise. Alors selon nos informations, le juge nigérien qui a repris ce dossier a décidé de se rendre personnellement sur place au Nigeria et au Bénin dans les prochains jours pour poursuivre l'enquête et notamment pour entendre ses témoins ou même des acteurs. Au Nigeria, les supposées jeunes génitrices et au Bénin, les responsables de la clinique de Cotonou.
Oui, et l'enquête au Bénin est en cours pour vérifier des informations apportées par la police nigérienne et pour savoir si des résidents béninois sont impliqués. Reste avec nous, Christine Muratet, je le disais tout à l'heure, beaucoup de questions concernant cette affaire. Bonjour Omarou. Aminou.
Bonjour Juan.
Bienvenue sur l'antenne, Aminou. On vous écoute.
Au fait, j'ai suivi la conférence de presse de l'avision du procureur et mes questions sont les suivantes. J'aimerais savoir en quoi consiste le délit de supposition d'enfant et quelles sont les sanctions qui punissent ce délit.
Alors, 17 personnes ont été écrouées et inculpées pour faux et usage de faux, déclaration mensongère et supposition d'enfant. En quoi consiste ce délit, supposition d'enfant ?
Supposition d'enfant. En fait, c'est marrant parce qu'on le retrouve dans le vieux code pénal français, on le retrouve dans le code pénal nigérien. C'est le fait d'attribuer donc la maternité d'un enfant à une femme qui n'en a pas accouché. C'est le terme le plus précis, me semble-t-il, c'est la simulation, en fait. C'est une simulation de maternité. C'est un délit dans le droit nigérien. Le code pénal prévoit pour les auteurs ou les complices entre 2 et 8 ans de prison. Ce délit est associé, vous le disiez, à un autre qui est faux et usage de faux en écriture à propos de la falsification des actes d'état civil. Et là, le code pénal nigérien prévoit de 1 à 10 ans de prison.
Je vais me faire le porte-parole de Dissa, qui nous dit l'avocat de l'épouse d'Ama Amadou, donc l'épouse du président de l'Assemblée nationale, parle de machination politique. Pourquoi l'avocat évoque-t-il une machination politique ? À quoi pense-t-il ?
Bon, cette affaire sociétale qui touche, on le voit, l'éthique et qui est très, qui touche aussi beaucoup de tabous, a pris un tour très politique au Niger en raison de la présence parmi ces couples concernés de Ama Amadou, le président de l'Assemblée nationale, de sa deuxième épouse. Ama est aujourd'hui, on peut le dire, l'ennemi intime du chef de l'État. Le camp présidentiel cherche depuis des mois, coûte que coûte, à lui faire quitter le perchoir pour y mettre un député de la majorité.
Il faut dire qu'Ama Amadou, pour ceux qui n'ont pas forcément tous les repères de la vie politique du Niger en tête, c'est un ancien membre de la majorité qui est passé dans l'opposition il y a tout juste un an. Et du coup, effectivement, comme certains le disent, il est devenu l'ennemi intime du président de la République.
Il a largement contribué à la victoire, effectivement, du président Issoufou en 2012. Et cette affaire de mœurs, cette affaire de trafic d'enfants va forcément fragiliser le président de l'Assemblée avec une question. Va-t-il devoir démissionner de son poste de président de l'Assemblée nationale.
À suivre donc, en tout cas, Ama Amadou et son épouse ont fait savoir par leur avocat qu'ils demandaient des tests ADN afin d'apporter la preuve scientifique de la filiation de leurs deux jeunes enfants. Encore des questions standards concernant cette affaire et on aura certainement l'occasion d'en parler dans un bon quart d'heure maintenant dans la libre antenne. Christine Muratet est avec nous. Au standard, au 33 9 693 693 70, nous avons par réseau Abdulrazak. Bonjour.
Bonjour Juan.
Bienvenue,
bonjour,
on vous écoute.
Alors, ma question, c'est de savoir, si jamais le président Ama Amadou il est impliqué dans cette affaire, qu'est-ce qu'il risque ? Et est-ce qu'il peut, est-ce que son immunité parlementaire peut le protéger ?
Alors d'abord, Ama Amadou est libre hein, en ce moment, il n'a pas été mis en examen.
Hein. Non, absolument. En revanche, comme les autres époux des femmes accusées de supposition d'enfant, il est susceptible d'être accusé donc de complicité de supposition d'enfant, de faux et usage de faux et de déclaration mensongère. Il est passible donc à ce titre-là de peine de prison allant, on l'a dit, jusqu'à 8 ans ou même jusqu'à 10 ans pour les faux et usage de faux. Mais il est couvert, et notre auditeur a raison, il est couvert par son immunité parlementaire en tant que député. Pour être mis en examen, il faudrait lever son immunité. La demande, elle doit être faite par le juge auprès du garde des Sceaux. La levée de l'immunité ne peut intervenir que si une majorité des deux tiers des députés la vote, c'est-à-dire 76 députés. On n'en est pas là. Pour l'instant, il n'y a rien. Jusque-là, donc, il est protégé. Le ministre de l'Agriculture, en revanche, qui est lui-même concerné par cette affaire, est plus fragilisé, car dans le cas d'un ministre, l'immunité ne joue que s'il a agi dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, et clairement dans cette affaire-là, ce n'est pas le cas.
Oui, et on a oublié de le préciser tout d'abord, mais c'est vrai que parmi les 17 personnes écrouées, il y a donc 12 femmes, celle du président de l'Assemblée nationale et celle du ministre de l'Agriculture, dont vous parliez un à l'instant. 10h26, on a le temps de prendre une dernière question. On me dit que la ligne n'est pas bonne, elle n'est vraiment pas bonne, on ne peut pas prendre Bachir à l'antenne. Bon, je vais donc me faire le porte-parole de Bachir, qui nous dit qu'il y a des organismes d'adoption au Niger, il cite l'association SOS Village d'Enfants. Pourquoi les personnes impliquées dans ce trafic vont au Nigeria pour acheter des enfants alors qu'ils peuvent s'adopter au Niger ?
Ben, Juan, c'est vrai que là, on touche à la fois à l'intime et à l'argent. Le point commun, finalement, de ces familles concernées par cette affaire, ce sont des gens fortunés et des couples qui, après des années de mariage, n'ont pas d'enfants. Alors, il y a des problèmes d'âge, souvent. Il y a d'âge notamment de l'épouse, de la maman. Il y a des problèmes de stérilité de l'homme et de la femme. Et là, on voit bien qu'on touche clairement du tabou. En tout cas, ces couples semblent souhaiter montrer à la société nigérienne que le couple, malgré la réputation ou la rumeur au Niger, peut avoir des enfants. Et la naissance est là aussi l'occasion de grands baptêmes où l'on expose sa fortune, où l'on expose sa puissance. Plus intimement, il y a une Nigérienne qui m'expliquait hier comment une femme qui n'a pas enfanté est stigmatisée, ou du moins qui peut se sentir stigmatisée. C'est pas uniquement au Niger, on le sait bien. Dans ce cas, l'adoption, qui pourrait bien sûr aussi être une solution, ne remplace pas la simulation d'accouchement qui laisse croire à tous que l'on a mis au monde son propre enfant, loin des regards, à l'étranger.
Et alors, il y a un point qui revient souvent, j'ai vu ça dans la page Facebook de l'émission, c'est la question de l'héritage.
Une question très sensible aussi. Dans le droit nigérien, si un homme laisse une veuve sans enfant, la femme n'héritera que d'un huitième de l'héritage. Le reste revient à la famille du défunt. S'il y a des enfants, ce sont eux qui héritent. Alors, l'adoption permet l'héritage, mais là aussi, on rentre dans des subtilités de la grande famille nigérienne. Adopter un neveu ou un cousin, ça se fait beaucoup, mais c'est aussi accepter de lui offrir son héritage qui risque de léser l'épouse, et l'épouse, elle n'est pas forcément d'accord avec cette logique-là. Bref, on est là clairement dans des questions taboues, dans des questions très puissante sociétale, et cette affaire met le point là-dessus, et on voit toute la gêne qui existe autour, et ça fait beaucoup, beaucoup parler. Je pense qu'on n'est pas sorti encore de cette histoire-là.
Oui, on en parlera dans 10 minutes dans la libre antenne avec les auditeurs qui le souhaitent, évidemment. Merci beaucoup, Christine Muratet, d'être venue répondre à quelques-unes des questions que nous avons compilées ce matin autour de cette affaire. La libre antenne, un seul numéro de téléphone, vous nous contactez et RFI vous donne la parole. 33 9 693 693 70. Vous souhaitez nous contacter, vous pouvez également nous envoyer un courrier électronique, appel au pluriel .actu@rfi.fr, sans oublier de nous indiquer un numéro de téléphone. En tout cas, on parlera certainement tout à l'heure de la mise en examen de Nicolas Sarkozy. Vous êtes quelques-uns à souhaiter lancer le débat. On parlera de la perspective d'une révision de la Constitution République démocratique du Congo, notamment après la sortie cette semaine des évêques congolais, des réactions également sur les inondations à Abidjan et sur la future Cour africaine des droits de l'homme. Vous voyez, les sujets ne manquent pas. Restez avec nous, à tout de suite.
Appel sur l'actualité vous a été proposé par Orange Monnaie, transfert d'argent et paiement de factures.